Géopolitique.
Chantal Loureau.
Bonjour et bienvenue à tous. Afghanistan, Libye, Syrie, Yémen, conflit israélo-palestinien, Crimée, entre des guerres qui s'éternisent et la politique du fait accompli, la diplomatie semble aujourd'hui terriblement impuissante. Pourquoi ? Faut-il revoir le fonctionnement du Conseil de sécurité, réformer le droit de veto ? Nous allons en discuter avec notre invité, Dominique de Villepin. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez été Premier ministre, ministre des Affaires étrangères et ministre de l'Intérieur, et vous venez de publier chez Grasset un essai de géopolitique très dense et plutôt sombre, Mémoire de paix, pourtant de guerre. Dominique de Villepin, vous regrettez, et c'est le fil conducteur de votre livre, que les États cèdent trop facilement à la tentation de la guerre. Pourquoi est-ce que c'est plus vrai aujourd'hui que dans le passé ?
Ça a plus de conséquences aujourd'hui que dans le passé parce que nous sommes dans un monde meurtri, fragile, blessé, cassé, querelle des identités, mouvement des peuples, affirmation du risque terroriste. Tout cela crée une somme de vulnérabilités et de difficultés qui fait que le recours à la guerre envenime un peu plus les crises et la situation du monde. Dans un monde blessé, la violence entraîne encore plus la violence. Donc sur fond de querelle, le recours à la guerre n'est pas susceptible d'apporter les promesses que nous en attendons. Et nous donc vivons donc sur un leurre, c'est l'idée que la guerre pourra, à la fin de la guerre, une fois gagnée, pourra nous apporter la stabilité. Je crois exactement l'inverse, et de ce point de vue-là, un certain nombre de régimes autoritaires sont moins naïfs que nous. La Russie accorde la primauté à la politique. Elle fait la guerre plus complètement que nous, c'est une guerre plus brutale et plus totale que celle que les Occidentaux portent, mais ils savent qu'il faut en passer par la diplomatie et par la politique, pour atteindre la paix. Et donc, de la fin de la guerre à la paix, il y a un très long chemin, et les démocraties ne veulent pas voir cet angle mort. Par ailleurs, et c'est un deuxième élément qu'il faut souligner parce qu'on l'oublie, on ne peut pas conduire la guerre n'importe comment pour arriver à la paix. Et c'est en ça qu'à mon sens, il faut une refonte assez complète du fonctionnement, des mécanismes, des missions des armées, si on veut atteindre l'objectif de la paix. Et ce que je préconise, c'est donc une révolution en profondeur. D'abord, revenir sur ce tout à la guerre, cette tentation de la guerre pour atteindre la paix, mais ensuite, mener la guerre autrement, si l'on veut effectivement avoir pour objectif la paix.
Vous dites qu'on cède à l'émotion, qu'on a aussi la tentation du romantisme. Est-ce qu'il y a aussi une méconnaissance ou une arrogance par rapport à la réalité du terrain ? Est-ce que c'est ça qui induit les politiques en erreur, qui les pousse à prendre de mauvaises décisions ?
Oui, vous avez raison. Il y a une méconnaissance, il y a une incompréhension, et il y a surtout un regard qui ne correspond pas à la réalité de ce que vivent les pays qui nous intéressent. Prenons l'exemple de la Syrie. C'est vrai que si vous voulez intervenir efficacement en Syrie, il faut partir de la situation sur le terrain, il faut partir de la marginalisation d'un certain nombre de populations dans le débat politique syrien. La même situation existe également en Irak et en particulier pour les tribus sunnites. Donc aujourd'hui, permettre à ces États de retrouver la stabilité, de retrouver un équilibre, c'est forcément donner une place à chacun. Comment vous faites dans des États qui sont des mosaïques de communautés, avec une histoire qui a donné la primauté à une minorité, et en l'occurrence à la minorité alaouite qui détient les rênes en Syrie, comment est-ce que vous faites pour passer à la règle de la majorité ? Ce que les Américains ont complètement ignoré quand ils ont pris les destinées de l'Irak après leur intervention militaire. Ils ont voulu donner le pouvoir à la majorité, et donc aux chiites, déstabilisant ce qu'était l'histoire de l'Irak. Et à partir de là, évidemment, les chiites ont confisqué le pouvoir pouvoir, ça a donné un pouvoir d'influence extrêmement fort à l'Iran, et cela a marginalisé les chiites. Et les chiites se sont retrouvés acculés à rechercher des soutiens, et en particulier, ils ont trouvé comme perspective d'avenir, eh bien, le soutien de groupes islamistes terroristes. Donc, on voit bien que la bonne volonté, la bonne intention, accompagnée d'une très grande méconnaissance, conduit à des catastrophes. Et donc, il faut faire de la politique, mais faire de la politique, ça ne veut pas dire plaquer notre regard, pas plus, ou nos intérêts, pas plus en Irak ou en Syrie, en détruisant des équilibres ou en reniant des équilibres historiques, culturels, religieux, pas plus qu'au Mali, en appliquant les principes d'une démocratie formelle, comme celle que nous préconisons. Nous avons prévu un schéma électoral comme sortie de crise au Mali. Le problème, c'est que ce schéma ne s'est pas accompagné de ce qui était l'essentiel et ce qui aurait dû être au cœur de cette stratégie institutionnelle, démocratique et politique. C'est plus d'inclusion, et en particulier plus d'inclusion vis-à-vis des tribus Touareg du Nord, qui étaient au cœur du problème. Et aujourd'hui encore, des pans entiers de la population se retrouvent en marge de la vie malienne, et donc souvent acculés à prendre des positions radicales ou à recourir à la violence. Donc il faut prendre en compte cette complexité, prendre en compte cette diversité, si l'on veut être efficace. La méconnaissance ou la vision toute faite ou la vision morale conduit à des catastrophes.
Mais est-ce que ça veut dire qu'il ne faut jamais faire la guerre, jamais intervenir militairement ?
Alors, si on prend les exemples des 15-20 dernières années, à chaque fois, cela a conduit à des catastrophes. Si on prend l'exemple de l'Afghanistan, l'exemple de l'Irak, l'exemple de la Libye, aujourd'hui l'exemple du Yémen, et à mon sens aussi, c'est quelque chose qu'on ne voit pas encore parce que on se refuse à se situer dans cette perspective longue, ce sera vrai également au Mali. Cette intervention française, elle a été pensée de façon trop lourde, trop traditionnelle, trop classique. Il fallait arrêter. Évidemment, les forces qui cherchaient à prendre Bamako, les forces rebelles qui cherchaient à prendre Bamako, mais on aurait pu le faire avec une intervention beaucoup plus légère, et on aurait
Vous
pu surtout...
dire uniquement des frappes aériennes et pas
d'intervention. Des frappes aériennes accompagnées par le soutien de forces régionales, et surtout, nous aurions dû peser pour que la stratégie politique du régime malien soit beaucoup plus ouverte que celle qui a été finalement choisie. Aujourd'hui, le problème reste entier au Mali et nous portons assistance, nous soutenons à bout de bras un régime qui souffre de grandes difficultés et qui voit de plus en plus à nouveau les problèmes ressurgir. C'est vrai dans le nord du Mali, c'est vrai également dans le centre du Mali, dans la région de Gao. Donc on voit bien que nous sommes très loin d'avoir trouvé la martingale, et par ailleurs, il faut constater que dans l'ensemble du Sahel, le problème ne cesse de s'approfondir. L'opération Barkhane, aujourd'hui, ne fait que courir derrière.
Pour vous, c'est un échec, l'opération Barkhane.
Pour moi, ça ne peut pas être un succès. Je prendrai les choses différemment. Ponctuellement, nous avons pu cautériser la plaie, mais nous n'avons pas pris les dispositions qui permettraient véritablement de régler la difficulté. Et l'intervention militaire nous apparaît trop souvent comme la solution, alors que cela ne peut être qu'un élément de la solution, mais un élément marginal de la solution. La solution, elle est toujours politique et toujours diplomatique.
Donc ça veut dire que la voix des militaires aujourd'hui l'emporte sur la voix des politiques.
Voilà, là vous touchez un point qui me paraît essentiel. Le militaire, et c'est une règle d'ailleurs dans les démocraties que nous avons perdu de vue, le militaire doit toujours être subordonné aux politiques et aux diplomatiques. Quand il n'y a pas de stratégie politique et de stratégie diplomatique, le militaire ne peut pas tenir toutes ses promesses. Et donc nous avons l'obligation, véritablement, de nous inscrire dans une vision politique et diplomatique, pas uniquement nationale, mais globale. Et c'est là où ce travail diplomatique il doit être fait en liaison avec tous ceux qui ont leur mot à dire. S'être privé du dialogue avec la Russie sur la Syrie, s'être privé d'un dialogue approfondi avec l'Iran, avec la Turquie sur ces questions, en mettant en avant un certain nombre d'arguments de nature morale, c'est absurde. La diplomatie, c'est parler à tout le monde, y compris à des adversaires, y compris à ceux qui ne pensent pas comme nous, sans quoi, évidemment, eh bien, les solutions ne peuvent être que fragiles.
Vous écoutez RFI, Géopolitique.
J'en reviens à l'équilibre à trouver entre politique et militaire. On a beaucoup parlé du mépris, par exemple, de Nicolas Sarkozy vis-à-vis des diplomates. Est-ce qu'aujourd'hui encore, il y a un malaise au Quai d'Orsay ? Est-ce que les diplomates ont le sentiment de ne pas être assez écoutés ?
Et je ne crois pas que le malaise puisse tenir à des considérations psychologiques ou personnelles. Je crois que le malaise tient plus à la place qui est donnée à la diplomatie. Malheureusement, la diplomatie n'est pas en pointe. J'ai toujours considéré, et c'était la conviction profonde qui m'animait comme ministre des Affaires étrangères, que la pointe la plus avancée, l'institution qui doit prendre le plus de risques sur le plan politique et diplomatique pour permettre au président de conduire la politique de la nation, cela doit bien évidemment être le Quai d'Orsay. Le Quai d'Orsay doit être source d'idées, de propositions, d'imagination, il doit être en avant, labourer le terrain de façon très dense et très profonde. Malheureusement aujourd'hui, le Quai d'Orsay en revient à ce qui a été souvent historiquement sa position traditionnelle, c'est-à-dire une institution qui prend des positions, qui fait des communiqués, qui fait des discours, mais qui n'est pas le laboratoire de la proposition diplomatique en liaison avec les autres diplomaties. Aujourd'hui, nous avons l'obligation de travailler en liaison avec les diplomaties européennes et nous avons l'obligation de travailler avec l'ensemble des nations. Et j'en reviens à ce qui, pour moi, est une conviction également très forte, c'est le fait que la diplomatie française a une vocation spécifique. Nous ne sommes pas n'importe quelle diplomatie en Europe et dans le monde. L'histoire de notre diplomatie, portée et renouvelée par le général de Gaulle, a fait que nous avons vocation à être un pays médiateur. Si on prend deux extrêmes dans la diplomatie européenne, Royaume-Uni et la France, le Royaume-Uni a toujours vocation à coller à la position américaine. La France a toujours vocation à être la pointe la plus avancée. Au contact de ceux qui sont parfois les partenaires ou les adversaires les plus difficiles. Nous parlons à tout le monde, nous faisons des propositions et nous essayons de combler le fossé entre les uns et les autres. C'est cette prise de risque qui fait l'honneur de la diplomatie française. Donc dès lors que cette diplomatie devient timide, dès lors que la diplomatie se met en arrière du militaire et que le militaire prend toute la place et que l'on croit pouvoir, avec les armées, régler les problèmes, non seulement on renonce à la vocation qui est la nôtre, mais ça c'est un deuxième élément que je souligne parce que je le crois important, mais on s'expose, notamment en matière de sécurité, bien davantage, alors qu'un des rôles de la diplomatie, c'est de protéger les Français et de protéger la France.
Dominique de Villepin, est-ce que vous diriez que certains chefs d'État ont aussi tendance à vouloir jouer à la guerre, entre guillemets ?
Alors ça, c'est une considération qui est à prendre en compte aujourd'hui. C'est vrai que pour les démocraties, où les réponses à apporter au peuple deviennent de plus en plus complexes et difficiles, et les délais de résultats de plus en plus importants, la guerre peut donner le sentiment à un dirigeant d'être plus efficace, d'être mieux capable d'apporter des réponses rapidement. J'ai souvent l'habitude de dire que dans nos systèmes démocratiques, il n'y a guère que deux boutons qui marchent véritablement, qui répondent rapidement. Le premier, c'est le bouton fiscal, et nos dirigeants souvent en abusent, et le deuxième, c'est le bouton militaire. Tous les autres leviers sont des leviers de longue haleine, des leviers qui tardent à donner des résultats et à porter des réponses. On l'a vu et on le voit dans la lutte contre le chômage. Donc c'est vrai, oui, le bouton militaire, les armées, ça marche. Alors c'est pas sans risque. On le voit y compris aujourd'hui dans le débat qui se développe sur le budget de la défense. On peut pas longuement faire appel aux armées sans leur donner les moyens d'être efficaces. Mais surtout, ce qui m'apparaît important, c'est que l'on mesure à quel point, si l'on veut être efficace dans un monde blessé, dans un monde cassé comme le nôtre aujourd'hui, il faut renouveler nos façons d'intervenir. Et je suis convaincu en particulier que les interventions militaires, si elles veulent se fixer comme objectif la paix en Syrie, la paix en Libye, elles doivent très en amont prendre en compte la question des messages adressés au peuple, notamment sur le plan humanitaire. Il faut beaucoup plus tôt agir sur le plan humanitaire. Donc ça veut dire que les scénarios, les modes d'emploi de nos armées doivent se fixer des objectifs nouveaux. Je n'ai pas oublié, j'étais directeur de cabinet d'Alain Juppé à l'époque, en 1994, je n'ai pas oublié la crise rwandaise. Si demain, nous devions faire face, dans les Grands Lacs par exemple, à une autre crise comme celle du Rwanda, imaginons le Burundi, nous n'aurions absolument pas les moyens, sur le plan de nos modes d'intervention militaire, d'être plus efficaces qu'il y a un certain nombre d'années. Donc, ça implique de redéfinir la mission des armées, de repenser un certain nombre de modes d'emploi militaire. Et la France, de ce point de vue-là, à mon sens, a une mission historique. Elle devrait être la première à repenser la mission des armées. Il y a non seulement des questions de crédit, mais il y a des questions de mode d'emploi, de formation, de moyens logistiques. Tout cela doit donc être revu si l'objectif n'est pas simplement de jouer à la guerre ou de faire la guerre, mais bien de contribuer activement à la paix. Alors, il y a une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle dans ces derniers jours. C'est l'arrivée d'un nouveau secrétaire général. António Guterres, ancien ministre du Portugal et nouveau secrétaire général des Nations Unis, dans son premier discours, il met en avant la nécessité d'une diplomatie de la paix. Et notamment, la nécessité, de façon préventive, d'agir pour faire en sorte que nous n'atteignions pas les crises ouvertes et donc des guerres qui deviennent autrement plus coûteuses, dommageables et dramatiques pour les peuples. Donc il y a aujourd'hui une approche nouvelle à définir, c'est celle de la prévention des conflits, c'est de renouveler les moyens de règlement des crises, et c'est de ne jamais oublier qu'une sortie de crise, passer de la fin de la guerre à la paix, c'est très compliqué, très long, ça demande des stratégies de reconstruction des États, de reconsolidation de l'État de droit, et ça c'est aussi une troisième étape extrêmement difficile. Nous aurons après le 20 janvier, avec l'arrivée de Donald Trump, sans doute des choses qui vont profondément changer sur la question syrienne. Après l'accord noué avec la Turquie et le régime de Damas, Vladimir Poutine peut assez facilement se tourner vers Donald Trump et lui proposer, par exemple, de mener combat ensemble contre l'État islamique. Que répondra Donald Trump ? Quelle sera la position de l'Europe ? Le drame pour l'Europe, c'est qu'à force de dire non et de s'enfermer dans des postures morales, nous sommes marginalisés.
Et la position de la France dans cette affaire syrienne, c'était une erreur de rejeter d'emblée tout dialogue avec, par exemple, Bachar el-Assad, même s'il est responsable de crimes de guerre ou de crimes.
Bachar el-Assad, et c'est là où il ne faut pas, je ne crois pas du tout qu'il faille être cynique, mais il ne faut pas non plus être naïf. Bachar el-Assad n'est pas la solution. Donc à terme, Bachar el-Assad devra partir. Et un certain nombre d'États qui aujourd'hui sont proches des Russes, c'est le cas de la Turquie, sont très mal à l'aise avec Bachar el-Assad. Mais dans un premier temps, il faut parler avec ceux qui sont là.
Même les plus infréquentables des dictateurs.
Absolument. Mettre en place un processus et dans le cadre de ces processus, faire en sorte que, au bout du chemin, Bachar el-Assad s'en aille. D'ailleurs, c'est la condition à terme de la stabilité. Nous savons tous qu'une partie importante de la population syrienne n'acceptera pas dans la durée de voir Bachar el-Assad rester au pouvoir. Donc acceptons, parce que c'est aussi ça la diplomatie, c'est de compter avec le temps. Acceptons de lancer des processus qui permettent de répondre tout de suite à la question la plus angoissante et la plus difficile. Quelle réponse apportons-nous pour alléger les souffrances des populations ? Et ça, les démocraties ont oublié cette question. Si, il y a plusieurs années, nous nous étions posé cette question, eh bien nous aurions agi différemment. Et c'est au nom des populations qu'il faut accepter de rentrer dans un processus de dialogue, tout en étant exigeant dans le cadre de ce dialogue, sur le point d'arrivée final. Mais de ce point de vue, acceptons de faire le pari de la discussion, de la diplomatie, et comptez avec le temps.
Dominique de Villepin, nous allons marquer une pause, le temps d'un nouveau journal sur RFI et nous retrouver dans 10 minutes. Nous verrons quelles sont vos propositions pour donner un nouveau souffle à la diplomatie, afin d'échapper à cette tentation de la guerre que vous dénoncez dans votre livre « Mémoire de paix, pourtant de guerre ». À tout à l'heure.
Bonio
Géopolitique.
Chantal Leroux.
Suite de géopolitique consacrée à l'impuissance de la diplomatie et avec notre invité Dominique de Villepin, nous parlons de son livre « Mémoire de paix pour temps de guerre ». Dominique de Villepin, on se souvient de votre discours du 14 février 2003 au Conseil de sécurité des Nations Unies. Vous aviez dit non au nom de la France à l'intervention militaire américaine voulue par George Bush, sous prétexte que Saddam Hussein détiendrait des armes de destruction massive. Et à l'époque, vous mettiez en garde contre les dangers d'une guerre injuste, illégitime, qui aggraverait les fractures entre les peuples, les communautés, fractures dont se nourrit le terrorisme. Ça, c'est ce que vous aviez dit dans votre discours. C'est incroyable de voir à quel point l'histoire, depuis, vous a donné raison.
Oui, c'est pas un grand exercice de prophétie. Je crois que tous ceux qui connaissent les relations internationales savent à quel point le recours à la guerre recèle de dangers. Il suffit de se référer à l'histoire. Nous, Français, nous avons une expérience unique dans ce domaine. L'expérience de la guerre d'Espagne 1808 sous Napoléon, l'expérience de la campagne de Russie, l'expérience des guerres coloniales. La guerre d'Indochine, la guerre d'Algérie, voilà une guerre gagnée, mais politiquement perdue. C'est dire à quel point nous avons dans nos mémoires cette expérience, cette leçon de la conduite de la guerre conduisant à des catastrophes, à une profonde déstabilisation des sociétés. Et je l'avais dit à l'époque à la tribune des Nations Unies, gagner la guerre, ce n'est pas gagner la paix. Et donc c'est un exercice à part entière que de construire la paix. Et ce que j'aimerais, c'est que nos compatriotes mesurent à quel point cet exercice à part exige d'engagement politique, d'engagement diplomatique, mais aussi d'engagement sur le plan des procédures administratives, sur le plan des procédures internationales, les procédures économiques. Prenons l'exemple de l'Ukraine. En Ukraine, il y a une guerre par procuration, une guerre qui se fait sur le terrain et qui continue à déstabiliser profondément ce pays, alors que nous connaissons les solutions. Il y a un modèle fédéral qui peut être mis en place, il y a une neutralité de l'Ukraine qui peut permettre de prendre en compte les lois de la géographie prises entre la Russie et l'Europe.
Mais vous diriez que l'Union européenne a provoqué la Russie et que c'est pour ça qu'on en est là aujourd'hui. Est-ce qu'on aurait pu éviter l'annexion de la Crimée, par exemple?
Sans doute oui. La Russie a mis à profit le manque de savoir-faire de la Commission de l'époque en proposant un accord d'association à l'Ukraine. Nous avons lancé un processus qui, inévitablement, devait conduire à des surenchères. Comment proposer à l'Ukraine un accord d'association qui permet à des produits de circuler librement entre l'Union européenne et l'Ukraine quand on sait que l'essentiel du commerce de l'Ukraine se fait avec la Russie et qu'un produit qui rentre en Ukraine libre le droit peut rentrer en Russie de la même façon libre le droit. Il fallait donc proposer quelque chose également à la Russie. Et nous avons renvoyé la Russie dans ses buts quand elle a osé lever le doigt en disant « Bon, bah, très bien, mais cet accord d'association, il est très déstabilisant pour moi. Qu'est-ce que vous me proposez ?» Donc, je crois que la méconnaissance des réalités géographiques, des réalités historiques,
est-ce que vous n'êtes pas un peu trop compréhensif vis-à-vis de Vladimir Poutine?
Mais je ne cherche pas du tout à être compréhensif parce que je suis en même temps très ferme vis-à-vis, et je crois qu'il faut être très ferme. Il faut du dialogue, c'est incontournable quand vous avez un adversaire partenaire dont vous dépendez pour trouver la solution à un problème. Ça, c'est la première règle. La deuxième règle, c'est qu'il faut être très ferme sur les principes. Et je ne crois pas du tout qu'il soit bon de passer, comme nous le faisons tacitement, par pertes et profits, la question de la Crimée. Mais en même temps, il faut de l'imagination. C'est-à-dire que quand le dialogue, à un moment donné, est bloqué sur un sujet, ben, il faut savoir élargir ce dialogue. Et nous avons de quoi parler avec les Russes sur l'Ukraine, sur la Syrie, mais nous pouvons mettre dans la corbeille d'autres sujets qui intéressent profondément les Russes. Alors, il y a bien sûr la question de l'embargo, mais il y a aussi les questions de sécurité. Nous avons vu qu'avec l'accord d'Helsinki de 75, les choses ont profondément changé. Nous avons les mêmes accords avec la Russie que ceux qui ont été dessinés avant la chute du mur de Berlin. On aurait peut-être intérêt à renouveler tout ça. Les
Donc
Russes
vous
le souhaitent.
Vous dites qu'il faut arrimer davantage la Russie mais, à l'Europe plutôt que de la laisser se tourner vers l'Asie et la Chine.
Mais quelle catastrophe historique le fait d'avoir conduit la Russie à ce point de déception vis-à-vis de nous, à ce point de rejet vis-à-vis de nous, de devoir se tourner exclusivement vers la Chine pour son avenir politique et économique. Rendons-nous compte que nous aggravons la division entre les pays démocratiques et les régimes autoritaires qui ne cessent de se renforcer. Depuis, on a vu la Turquie, on a vu l'Iran, on a vu un certain nombre de pays démocratiques tenter de rejoindre ce club. C'est un régime pro-russe qui a pris le pouvoir en Moldavie, c'est un régime pro-russe qui a pris le pouvoir en Bulgarie. Il faut se rendre compte que nous sommes de moins en moins séduisants, nous, pays démocratiques, parce que nous n'apparaissons pas comme capables d'apporter des réponses et des solutions, ni à nos peuples, ni aux grandes questions du monde. Donc, je crois que l'intelligence... le pragmatisme, mais aussi l'intérêt déontologique de l'Europe, la défense de ses convictions, la défense d'une certaine idée de la morale, par exemple sur la Crimée, c'est la fermeté, mais en même temps une imagination qui permet d'arriver à des solutions, d'arriver à des réponses. Jouons avec le temps.
Vous proposez un Helsinki du Moyen-Orient. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ?
Alors, je propose de créer au Moyen-Orient, ce qui n'existe absolument pas aujourd'hui, un embryon de dynamique régionale. Quand, après la guerre, nous, Européens, nous avons décidé de construire l'Europe, on a commencé par faire la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier. Eh bien, le Moyen-Orient, il est riche en pétrole et en gaz, mais pas tout le monde. Et tout le monde n'en profite pas. Faisons en sorte que les principaux États du Moyen-Orient, les plus riches, et en particulier deux États qui ne se parlent pas ou pas assez et qui se détestent, qui ont une rivalité historique, l'Iran et l'Arabie Saoudite, eh bien ces États mettent au pot commun une partie de leur richesse en gaz et en pétrole pour servir le développement de cette région. Donc au service de la justice, au service des peuples, de la reconstruction des États, pour des grands projets de nature régionale, il y a là une dynamique régionale qui pourrait être lancée. Ça, c'est l'amorce d'une dynamique économique, mais il doit aussi y avoir une amorce, une dynamique dans le domaine de la sécurité. Nous avons, nous, lancé Helsinki dans les années 70 pour créer un intérêt commun de part et d'autre, du côté russe comme du côté européen. Eh bien, un Helsinki de la sécurité au Moyen-Orient, ce serait de faire en sorte de trouver un intérêt commun entre les différents pays, notamment l'Iran et l'Arabie Saoudite, pour arrêter ce processus suicidaire qui entraîne dans l'instabilité et dans la violence cette région.
Donc les intérêts économiques viendraient au secours, en fait
C'est des intérêts économiques qui seraient la base d'un intérêt commun régional et des intérêts sécuritaires qui seraient la base d'un intérêt régional. Personne n'a intérêt à ce que cette région poursuive sa course suicidaire. C'est pas non plus l'intérêt de l'Iran à terme d'avoir une Arabie Saoudite qui s'effondre, des divisions encore plus grandes, du terrorisme un peu partout. Aujourd'hui, certains États tirent mieux les fils que d'autres, mais à terme, tous les États seront menacés par cette instabilité. L'Iran a, dans quelques mois, ses élections au mois de mai. Il y a donc des échéances importantes. Chaque État, aujourd'hui, a intérêt à élargir les perspectives. Donc ce que je propose, c'est que l'Europe soit une force de proposition pour reconstruire sur des bases nouvelles une dynamique positive pour cette région, le Moyen-Orient, qui est la région du monde la plus martyrisée.
Donc quand les Occidentaux délèguent à l'Arabie Saoudite la gestion de la crise yéménite, ça par exemple c'est aussi une erreur.
C'est une immense erreur. Cette guerre au Yémen est une absurdité. Elle est d'une cruauté inouïe. Elle contribue un peu plus à déstabiliser le Yémen et donc à terme l'Arabie Saoudite, toute la province de la Dramaout, qui est un élément extrêmement sensible historiquement pour l'Arabie Saoudite. La présence de communautés chiites est un élément important. Tout ça à terme dessert profondément l'Arabie Saoudite et ne permet pas d'apporter une véritable réponse à la situation d'instabilité du Yémen. Donc on voit bien qu'il y a un processus politique qu'il faut lancer, et cette logique de guerre à outrance partout au Moyen-Orient est absurde.
Vous écoutez RFI Géopolitique.
Alors j'en viens au rôle des Nations Unies dans la résolution des conflits. On a vu l'impuissance de l'ONU à organiser des négociations de paix qui donnent des résultats, donc qu'il s'agisse de la Syrie ou du Yémen. On a vu la France et la Grande-Bretagne sortir du cadre des résolutions de l'ONU en ce qui concerne la Libye, par exemple. Quant aux résolutions concernant le conflit israélo-palestinien, elles sont restées lettre morte depuis 70 ans. Donc À quoi sert l'ONU aujourd'hui, finalement?
D'abord, c'est un point de repère, et c'est extrêmement important. Même si les joueurs n'écoutent pas les coups de sifflet de l'arbitre, néanmoins, il est important qu'il y ait un arbitre. Important qu'il y ait quelqu'un qui fixe un minimum de lignes, un minimum de repères, parce qu'à un moment ou à un autre, les joueurs, lassés de se taper dessus, seront bien obligés de trouver un modus vivendi. Donc, avoir l'ONU, c'est important, et n'imaginons pas que le monde serait meilleur ou plus juste ou plus stable sans l'ONU. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain.
En revanche, vous proposez donc qu'on revoie la composition du Conseil de sécurité.
Il faut moderniser l'ONU et il faut faire en sorte que la légitimité de l'ONU soit accrue. Donc il y a deux axes de travail extrêmement importants. Sur la légitimité, il est évident qu'un conseil de sécurité comme celui qui existe aujourd'hui n'est pas représentatif du monde. Vous avez des pans entiers de la planète qui sont totalement absents des Nations Unies.
L'Afrique, à commencer par l'Afrique.
L'Afrique, l'Amérique latine, le Moyen-Orient,
l'Inde,
une partie de l'Asie. Donc tout ça est absurde. C'est un vieux monde qui dirige aujourd'hui les Nations Unies. Donc c'est l'intérêt de tout le monde que de faire en sorte que le Conseil de sécurité soit plus représentatif. Sur la table, il y a un certain nombre de propositions. Élargir le nombre de membres permanents, peut-être créer des membres semi-permanents, voire élargir le nombre de membres non permanents, de façon à ce que plus de pays aient voix au chapitre. Donc il y a un certain nombre de pistes de réflexion. Il y a évidemment des divisions et des débats pour savoir qui devrait faire partie du club des membres permanents. Est-ce que c'est le Japon, l'Inde, les deux, en Afrique, qui est mieux passé, l'Algérie, le Maroc, l'Afrique du Sud, en Amérique latine, l'Argentine, le Brésil, le Mexique. Il faut choisir, il y a des choix à faire. Et c'est pour cela que je pense qu'entre ces trois corbeilles, les membres permanents, les membres semi-permanents et les membres non permanents, on doit pouvoir trouver un équilibre qui, sur le plan de la géographie, soit acceptable. Reste la modernisation des procédures et au premier chef le droit de veto.
Qui, il faut le rappeler, est l'apanage des cinq pays.
Des cinq pays membres.
Permanentes.
Voilà, vainqueurs de la guerre. Et ces cinq pays membres, aujourd'hui, bloquent, on le voit avec la Russie, la Chine, et, bloquent un certain nombre de résolutions, ou les États-Unis, en ce qui concerne la colonisation en territoire palestinien, bloquent un certain nombre de résolutions dès lors que cela les gêne ou qu'ils considèrent que leurs intérêts vitaux sont en question. Alors, il y a une proposition qui a été faite par Kofi Annan en 2006, qui, je crois, est intéressante, qui est celle de considérer que le droit de veto ne pourrait pas s'appliquer quand il s'agit de crimes contre l'humanité. Cela limiterait donc le recours au veto et cela permettrait aux Nations Unies d'être plus efficaces, d'être en action sur les crises les plus graves.
Mais là, on le met où aussi le curseur quand on parle de crimes contre l'humanité?
Exactement. Et c'est là où on voit bien que les modalités pratiques sont extrêmement difficiles. Et c'est pour cela que je pense que cette réforme du droit de veto ne sera possible que s'il y a une profonde modernisation du système des Nations Unies et la création de nouvelles institutions qui vont modifier l'importance de l'enjeu. Par exemple, créer une organisation des Nations Unies pour l'environnement. Par exemple, créer un conseil économique dans le cadre des Nations Unies. On voit bien que le monde aujourd'hui manque de structures décisionnaires pour le secteur économique et le secteur financier. Le FMI, la Banque mondiale ne peuvent pas faire ce travail-là. Donc avoir un véritable conseil de sécurité économique pour véritablement décider dans les crises...
Mais ce serait pas ajouter une structure à d'autres structures ?
Mais non, dans la mesure où on voit bien que le G7, le G8 n'a pas fait ce travail-là, ils sont lents et se mobilisent difficilement, il y a besoin aujourd'hui de plus de gouvernance mondiale. Donc je pense que dans la réforme de la gouvernance mondiale, il y a la possibilité de trouver un équilibre et de créer surtout un climat de confiance. Vous avez rappelé tout à l'heure la résolution sur la Libye. Cette résolution qui avait été votée à l'unanimité et les Russes et les Chinois ont eu le sentiment qu'elle n'était pas respectée. Quand vous blessez la sensibilité, quand vous heurtez la sensibilité ou quand vous reniez votre parole, eh bien cela laisse des traces.
C'était plus qu'un sentiment, dans les faits.
Absolument, et ça a été vrai. Les pays, la France et le Royaume-Uni, ont outrepassé leurs prérogatives. Donc il est très important de créer le climat de confiance qui permette à un moment donné de réformer ces outils, mais surtout de travailler ensemble.
Vous préconisez aussi la création d'un institut de prévision des crises, c'est bien ça?
Oui, je pense que...
Mais il n'y a pas assez d'experts au sein des Nations Unies pour travailler justement sur la prévision des
crises. Le problème, et nous avons ce problème aussi à l'échelle de la France ou de l'Europe, c'est de brancher davantage les experts sur les circuits de la décision, de façon à ce que leurs avis puissent avoir un rôle. Très souvent, les experts dans notre pays, c'est un leitmotiv des uns et des autres, Gilles Kepel et beaucoup d'autres, se plaignent de ne pas suffisamment être entendus. Et ils ont raison. Ils ont raison. Donc, si dans le cadre d'un institut qui, par exemple, travaillerait directement avec le Conseil de sécurité, et qui, à la demande du Conseil de sécurité, serait le baromètre des crises du monde, et ça s'accompagnerait d'autres réformes, et notamment d'un Conseil de sécurité qui se réunirait tous les mois à l'échelon des ministres pour faire le point sur toutes les crises importantes. Eh bien, nous prendrions l'habitude de prendre des décisions là où nous attendons trop souvent que la crise devienne médiatique pour prendre ces décisions. Il faut prendre les décisions plus tôt, à un échelon plus élevé et mieux éclairé par des compétences et des experts, de façon à ce que nous soyons plus efficaces. De ce point de vue-là, si vous aviez, comme un conseil des ministres qui se réunit à l'échelle nationale, eh bien un conseil de sécurité qui se réunisse régulièrement, tous les mois par exemple, à l'échelle des ministres et tous les ans à l'échelle des chefs d'État, pour se pencher sur les crises et voir ce qui convient d'être fait, mais vous n'auriez peut-être pas la situation désastreuse que nous avons au Soudan du Sud, au Congo et dans beaucoup d'autres régions du monde où les crises ne sont tout simplement pas gérées. Vous savez, une grande partie des malheurs du monde ne tiennent pas à la méchanceté des hommes, elle tient d'abord à leur indifférence. Et c'est cette indifférence qui doit être contrée par plus de travail, plus de gouvernance, plus d'expertise et donc plus de politique. Et de ce point de vue-là, nous avons besoin d'abord de réveiller la diplomatie. C'est pas que la diplomatie, elle est maladroite, elle est intermittente. Elle travaille de temps en temps, pas tous les jours, et quand elle travaille, elle déjeune plus qu'elle ne bosse.
Dominique de Villepin, si je résume votre propos, la diplomatie, c'est l'art de comprendre les tenants et les aboutissants d'une situation, la complexité d'un conflit, les racines d'un conflit, les blessures refoulées. Or, avec l'élection de Donald Trump à la Maison-Blanche, nous voilà dans la diplomatie du tweet en 140 signes. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que ça vous désespère?
Écoutez, il est encore un peu tôt pour savoir si ce qui a été l'outil du candidat et du président élu sera l'outil du président dans l'exercice de ses fonctions. Il est évident que le tweet ajouterait une confusion et en permanence de la rumeur là où il faut de la fiabilité, du sérieux et de la décision. Donc, nous aurions le plus mauvais des réseaux sociaux et nous aurions en même temps le plus mauvais de la politique. Donc, je crois qu'il faut être extrêmement méfiant. Cela peut créer un lien passionnel avec les peuples. Cela peut donner sentiment au peuple d'être au contact de son président. Mais il faut d'abord du sérieux, de la fiabilité, de la rigueur dans la décision politique. Et je pense que très vite, Donald Trump se rendra compte que cela ne s'accommode pas de l'humeur de l'instant.
Vous l'avez déjà rencontré, Donald Trump ?
Oui, je l'ai rencontré quand j'habitais aux États-Unis dans les années... dans les années 80, mais je l'ai connu à l'époque où il était homme d'affaires. Il est maintenant dans une toute autre fonction.
Alors justement, on ne dirige pas un pays comme on dirige une entreprise ?
Certainement pas.
Alors qu'est-ce qui va changer avec lui aux commandes ?
Ce qui va changer, c'est l'intérêt général. Est-ce que il sera capable de mettre toute son énergie et de faire travailler cette administration avec pour seul objectif l'intérêt général ? L'intérêt particulier, l'intérêt d'une entreprise, l'objectif de profit, c'est pas l'objectif d'une nation. Apporter des réponses à une nation, c'est compliqué, c'est difficile, ça demande des arbitrages, des compromis, ça demande des choix c'est évidemment un travail extrêmement complexe.
Merci beaucoup Dominique de Villepin d'avoir été notre invité. Je renvoie nos auditeurs à votre livre, aussi riche que passionnant, Mémoire de paix pour temps de guerre, publié chez Grasset. Vous pouvez retrouver l'émission géopolitique sur notre site internet www.rfi.fr, la podcaster et vous reporter à notre page Facebook. Merci à Nathalie Laporte qui a réalisé l'émission et à Franck Baudin qui m'a aidé à la préparer. Demain, nous parlerons de l'emprise des multinationales sur la marche du monde.
En sol majeur.